La confiance en soi, c'est quoi? C'est quoi la différence avec l'estime de soi? Comment on peut faire pour en construire de la confiance en soi quand on en manque? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Vous avez été nombreux à nous dire que la confiance en soi est votre plus grand obstacle à être vous-même, à vous sentir à votre place et à avoir des relations épanouissantes. Le doute de soi, ne pas se sentir à la hauteur, le syndrome d'imposteur peuvent nous amener à nous sous-estimer, à nous sentir anormal et à abîmer nos relations. Parce qu'on a tous le droit d'être nous-mêmes et qu'on mérite d'oser l'être. On vous concocte un coaching spécial confiance en soi, bientôt disponible, pour vous transmettre les fondamentaux de la confiance en soi. Gardez un œil ouvert sur notre compte Instagram, @jevaismieux.jvm, pour être sûr de ne pas le louper. On ne peut pas vous en dire plus pour le moment, mais on veut que ce soit vraiment accessible à tout le monde, sans question d'argent, parce que tout le monde le mérite vraiment. Bonjour, nous sommes Aimé et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humain. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit.
Alors la confiance en soi, elle a plusieurs facettes. Il y en a une qui est dans le faire et une qui est dans l'être. La première, celle qui est dans le faire, c'est de réussir à construire à l'intérieur de nous-mêmes la croyance selon laquelle, quel que soit ce qui va arriver, j'aurai les moyens d'y faire face. Je serai capable, j'aurai la capacité, je saurai trouver à l'intérieur de moi les ressources nécessaires pour faire ce qui aura besoin d'être fait à ce moment-là. Si je peux avoir cette certitude, alors j'ai confiance en moi. C'est aussi savoir que je peux me protéger, que je peux compter sur moi, que je peux compter sur le fait que je vais avoir mon intérêt à cœur, je vais être moi-même mon meilleur allié et je vais être capable de prendre mon propre parti et donc de défendre mon intérêt.
Donc la deuxième dimension de la confiance en soi, c'est, comme tu disais dans l'être, c'est en fait croire en ma valeur. Et c'est là que ça se rapproche de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment je me porte de l'estime à moi-même en tant que personne. Je crois que la personne que je suis a de la valeur. Et du coup, j'ai de l'amour pour cette personne-là. C'est vraiment comme estimer quelqu'un d'autre. Mmh. Avoir de l'affection, penser du bien de cette personne. Et bien, c'est ça appliqué à moi. Mmh. Et c'est en ça que l'estime de soi est une des sources de la confiance en soi. C'est que si je crois que j'ai cette valeur-là, si je le ressens à l'intérieur de moi, si je suis certain ou certaine que je mérite d'exister, que je mérite d'avoir ma place, que j'ai de la valeur, alors je vais croire que je mérite l'amour et l'appartenance, que je pourrai être aimée par d'autres, que je peux appartenir. Ça veut dire aussi que j'ai pas besoin de courir après tous les signes d'amour que n'importe qui pourrait me donner, aussi petit soit-il, parce que, en fait, si cette personne-là, oui, d'accord, elle, j'ai l'air de lui plaire, mais en même temps, il y a trop de trucs qui me vont pas ou qui sont pas respectés ou quoi que ce soit, je peux passer mon chemin parce que je suis convaincue à l'intérieur de moi que je vais trouver d'autres gens pour m'aimer, que je vais pas manquer d'amour, que cette valeur-là, elle est intrinsèque à l'intérieur de moi. Donc, la confiance en soi, c'est aussi cette liberté que ça donne d'être certain, d'être vraiment en contact avec notre propre valeur.
C'est d'en avoir conscience, en fait. C'est pouvoir le ressentir et que ça ne soit pas mis en danger à la moindre occasion extérieure qui va venir me questionner ou me challenger ou me remettre en doute.
Exactement. Et du coup, j'ai beaucoup moins peur d'être rejeté, j'ai beaucoup moins peur d'être perçu comme différent, j'ai beaucoup moins peur d'être vu simplement dans qui je suis vraiment, j'ai moins peur de ne pas plaire, je me censure beaucoup moins, j'ose beaucoup plus. Ça me donne vraiment toute cette liberté d'être pleinement moi-même, aussi avec cette idée que, en fait, je veux être aimée pour qui je suis, pas pour qui je prétends être ou qui je fais semblant d'être pour être sûre de correspondre aux attentes de l'autre, etc. Non, non, moi je sais qui je suis, je sais que ça a de la valeur, j'en suis convaincue et du coup, je peux le montrer. Et entre guillemets, ben, si on m'aime, tant mieux. Et encore, c'est à moi de décider si les conditions me vont ou pas. Et puis si on m'aime pas, et ben tant pis. Mais j'ai pas cette peur que je vais en manquer parce que je sais que je l'ai à l'intérieur de moi.
Et c'est vraiment cette idée d'en prendre conscience. C'est-à-dire que, imaginez, l'image est un peu bizarre, mais imaginez que vous avez une très très belle voiture qui a énormément de valeur. Vous allez être fier d'ouvrir le garage, de la sortir et de la montrer. Ça vous paraît évident. Quelque chose qui vous semble avoir de la valeur, vous allez être fier de le montrer. Alors c'est que ça. Quelque chose pour lequel vous pensez que ça n'en a pas, au contraire, vous allez avoir tendance à le cacher. Donc, faire construire la capacité à ressentir la valeur que l'on a va naturellement avoir envie de nous donner la possibilité de nous montrer aussi, parce que nous-mêmes, on a conscience de la valeur que l'on a. Donc, on n'a plus aucune raison de se cacher. Et au contraire, on a même envie de montrer qui on est pour l'offrir au monde et offrir aux autres la possibilité de voir notre beauté, de voir notre valeur. Alors que, à contrario, cette difficulté à percevoir notre propre valeur nous amène à nous sentir attaqués ou insécurisés en fonction des conditions extérieures. Typiquement, dans mon cas, c'était ce qui se passait dans une conversation. C'est-à-dire que je me souviens, quand on s'est rencontrés avec Aimé, j'avais tendance à être insécurisé quand on n'était pas d'accord. Parce que moi, j'ai pas été habitué à la culture du débat, donc j'ai pas été habitué au fait que des personnes aient des avis divergents et que ce soit OK dans une conversation, qu'on soit pas d'accord. Et du coup, systématiquement, quand une personne en face de moi était pas d'accord avec moi, ça avait tendance à me faire peur parce que, à ce moment-là, ce que moi je crois et ce que moi je pense engage la valeur de qui je suis. C'est-à-dire qu'en fait, il se joue beaucoup plus que le sujet de la conversation à ce moment-là. On peut être en train de parler d'un truc en politique ou même d'un truc plus simple, d'alimentation ou de sport, n'importe quoi. Moi, si je crois à cette chose-là, je joue ma valeur personnelle au milieu de la conversation. Donc, quand la personne me dit qu'elle n'est pas d'accord avec moi, ce que moi je perçois, c'est que cette personne ne m'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, j'ai des difficultés à garder à l'intérieur de moi la conscience de ma propre valeur, et du coup, elle est insécurisée et elle est attaquée par l'avis divergent de l'autre. Du coup, si j'arrête d'avoir peur de ça, si je réussis à être beaucoup plus convaincu de ma légitimité, je vais d'autant plus oser dire ce que j'ai envie de dire, sans être insécurisé par l'extérieur, et sans avoir peur non plus de passer pour un con.
Oui, et c'est de là que naît effectivement cette peur que beaucoup partagent, hein, de la peur des débats, d'une conversation qui deviendrait un petit peu animée, ou même carrément des conflits, hein, forcément. En fait, on a souvent peur de la confrontation quand on n'arrive pas à avoir à l'intérieur de nous la confiance que, petit 1, je vais pouvoir rester moi-même, je vais pouvoir rester fidèle à qui je suis, à ce que je pense, à ce en quoi je crois, et que je vais pas me faire écraser par l'autre, ou que je vais pas plier ou me ranger à la vie de l'autre juste pour faire plaisir, mais que je vais pouvoir être loyale envers moi-même et m'exprimer. Et petit 2, la confiance que le fait qu'on soit pas d'accord, ou même que j'ai tort ou que je me sois trompée, ne met pas en jeu ma valeur personnelle, comme tu disais. Que ça veut pas dire que je suis trop con, et donc je suis nul, et donc je n'ai pas de valeur, je suis pas légitime, etc. etc. Ça va pas réveiller tout cet enchaînement d'interprétations et du coup d'émotions qui vont avec. C'est juste, ok, ben là je me suis trompée. Et puis en fait, je peux me rendre compte de ça et apprendre une des nouvelles choses par rapport à ça. Ou bien on n'est juste pas d'accord, il n'y a pas forcément un qui a tort et on peut construire à partir de cette diversité d'avis et ça peut enrichir notre pensée mutuelle, etc. Donc il y a vraiment cette idée que si j'ai confiance dans le fait que quand on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est nul, qui est con, qui est débile et l'autre qui est intelligent, qui est sensé, etc., à ce moment-là, j'ai plus de raison d'avoir peur de rentrer dans une discussion qui pourrait devenir un débat ou qui pourrait même devenir un peu plus animé parce que je vais garder ma posture à moi. Ça ne veut pas dire pas changer d'avis, ça ne veut pas dire ne pas voir quand j'ai tort, ça veut juste dire rester ancré dans ma valeur personnelle et ne pas attaquer qui je suis moi.
Et du coup, ne pas, moi, me sentir attaqué, et du coup, ne pas avoir non plus besoin d'attaquer l'autre.
D'attaquer l'autre, bien
Parce
sûr.
Qu'à ce moment-là, dans ce genre de conversation, si moi, je me sens attaqué dans ma valeur personnelle, globalement, ça active des mécanismes de survie dans le cerveau. Et là, encore une fois, il n'y a que trois options. Soit je me lève de la table, je fuis parce qu'en fait c'est insupportable. Soit je me paralyse sur place et je disparais de la scène. Soit, au contraire, je vais devenir agressif moi-même et je vais agresser l'autre. Et l'autre, en face, il ne va pas comprendre pourquoi, parce qu'en fait, il n'a rien dit de mal. Il a juste dit ce que lui, il pensait. Mais parce que moi, je me sens agressé, du coup, je me mets à agresser l'autre. Et c'est comme ça qu'une conversation passe de animée à hautement conflictuelle.
Et puis qu'après, on peut plus avoir de conversation ensemble, en fait. On n'arrive plus à parler parce qu'on s'est fait mal trop de fois, parce que trop de fois, on s'est invalidé dans les personnes qu'on était, nous-mêmes ou l'un envers l'autre. On s'est trop agressé, donc on n'ose plus parler.
Alors du coup, concrètement, comment on fait ? Comment on ancre en nous la croyance qu'on mérite d'être aimé tel que l'on est ? Comment on crée de la confiance en soi ? Alors la première chose que l'on peut faire, qu'il faut faire d'ailleurs, c'est faire grandir l'amour de soi. Alors ça paraît bête dit comme ça, mais en fait c'est très puissant et c'est très profond. C'est faire grandir la capacité à avoir de l'estime pour nous-mêmes et augmenter notre manière et le soin que l'on apporte à nous-mêmes. Et ça, ça commence par apprendre à se connaître. C'est-à-dire que on croit qu'on se connaît, on croit qu'on sait ce dont on a besoin parce que ça nous paraît naturel. Mais en fait, c'est très intéressant de prendre le temps d'écouter finement pour essayer de découvrir réellement, nous, de quoi on a besoin. On pourrait avoir la même curiosité que celle que l'on aurait quand on découvre quelqu'un dans une relation. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un et que cette personne, elle fait naître des papillons dans nos ventres et qu'en fait, on a terriblement envie de la rejoindre, on a envie d'être en contact avec elle ou avec lui. On est curieux, on a une vraie curiosité, on a vraiment envie de découvrir qui cette personne est, quel est son trésor, qu'est-ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, quels sont ses goûts. On peut utiliser cette image en se disant, et si on essayait d'avoir cette curiosité envers nous-mêmes pour être finement attentif à quels sont nos besoins, à quels sont nos goûts, de quoi on a envie vraiment? De quoi est-ce que moi j'ai envie à l'extérieur de toutes les normes sociales, en fait, à l'extérieur de tous les modèles, à l'extérieur de toutes ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux qui nous font croire qu'on devrait aimer voyager, on devrait aimer sortir dans des bars avec des gens, on devrait aimer ci ou ne pas aimer ça. Enfin, au-delà de tous ces courants, de toutes ces idées qui sont véhiculées sur à quoi ça ressemble le bonheur, à quoi ça ressemble une belle vie, en fait, moi, de quoi j'ai envie ? Parce que peut-être que moi j'ai envie de rester chez moi tout seul ou toute seule. Peut-être que moi j'ai envie de pas sortir, peut-être que j'ai envie de faire l'inverse de tout ça.
Oui.
Mais est-ce que je le sais ?
Et ce que tu dis me fait penser aussi à, par rapport à ces modèles, notamment de, par exemple, je le dis pour les femmes, à quoi ça correspond une belle femme ? Typiquement, on voit qu'une femme qui s'habille bien ou qui prend soin d'elle, c'est une femme qui va porter des talons, qui va porter une robe, qui va se maquiller, qui va se mettre en valeur. Et il y a cette idée de, en fait, si je fais pas ça, je suis pas moi une belle femme, ou je suis pas en train de prendre soin de moi, ou je suis pas en train de me mettre en valeur. Et en fait, c'est aussi se donner cette liberté de se dire, en fait, est-ce que moi, ça me va ? Est-ce que c'est pour moi les talons ? Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça me fait plaisir d'en porter déjà physiquement ? Est-ce que l'image que ça dégage de moi, c'est celle que je veux ? En dehors de, une femme apprêtée est une femme qui est maquillée, porte une belle robe et a des talons, et c'est des cases à cocher, et si t'es pas comme ça, c'est que t'es pas apprêtée, c'est que tu te laisses aller, c'est que... Il y a vraiment plein de choses... On ne se rend pas compte le nombre de modèles et d'injonctions et de cases dans lesquelles il faut qu'on rentre, qui nous sont véhiculées dans la société. Et en fait, tous ces modèles, ils sont inconscients à l'intérieur de nous pour beaucoup. Ils sont très difficiles à déconstruire, vraiment très difficiles. Il y en a qui peuvent prendre énormément de temps. Je prends un autre sujet pour les femmes encore, par exemple l'épilation. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on voit être un peu plus remis en question, des femmes qui assument de ne pas s'épiler et qui disent « Ok, je veux pouvoir être comme je suis dans mon corps. » Mais en même temps, c'est pas si simple que ça à assumer socialement. Et c'est en prenant conscience de tous ces modèles auxquels on essaye de répondre et auxquels on essaye de correspondre que du coup... on se rend compte qu'en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question de est-ce que moi j'avais envie de passer une heure à m'épiler chaque semaine, ou de porter des talons qui me font mal aux pieds à la fin de la journée, ou de me maquiller, de ne pas pouvoir me gratter les yeux et à chaque fois d'avoir peur que mon maquillage ait coulé ou que je ne sais pas quoi. En fait, est-ce que moi j'ai envie de ça? Est-ce que ça me va comme prix à payer aussi quelque part? Pour gagner quoi? Et cette question-là, on s'est rarement donné vraiment de la liberté de se la poser, parce que le modèle extérieur est tellement puissant que c'est vraiment très difficile de s'en émanciper. Donc, c'est aussi de s'octroyer, je ne vous dis pas qu'il faut absolument ne plus ni vous épiler, ni vous maquiller, ni porter des talons, si c'est votre style, bien sûr, mais juste de se donner la liberté de se poser ces questions-là, en fait. Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui me ressemble? Comment je me sens quand je mets ça? Comment je me sens quand je fais ça? Qu'est-ce que ça crée? Et savoir, du coup, il y a aussi plein de choses que je vais aimer pour des raisons très différentes, et de voir ce panel-là à l'intérieur de moi. Quand je suis un peu triste, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est aller marcher? Est-ce que c'est aller au cinéma? Est-ce que je peux m'autoriser à aller au cinéma toute seule? Ou est-ce que ça fait pauvre cas social qui n'a pas d'amis? Est-ce que je peux m'autoriser ça? Parce qu'en fait, c'est quand même savoureux et puis ça me permet de pleurer un bon coup et de ne pas me poser de questions et de ne pas avoir à rassurer l'autre, par exemple. Donc, de voir comme ça, comment est-ce que, effectivement, je peux faire des choses qui me correspondent à moi?
Et cette manière d'explorer en fait les choses qui me correspondent à moi sans avoir besoin de la validation extérieure pour me dire j'ai le droit ou pas le droit, donc c'est me donner à moi-même mes propres autorisations selon mes propres valeurs, c'est très intéressant et comme tu le dis, c'est difficile. Et un élément qui peut aider à ça, c'est de réussir à repérer ce qu'on pourrait appeler les symptômes du bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, on est très habitué à se rendre compte de quelque chose qui ne nous plaît pas. Parce qu'on est très habitué, comme on le disait dans l'épisode de podcast précédent, à repérer les peurs, les dysfonctionnements, les choses qui ne marchent pas. Parce qu'on réussit assez facilement à ressentir les émotions négatives et on les repère. Mais est-ce que vous savez, à l'intérieur de vous-même, quel goût ça a quand vous êtes en phase avec vous-même et quand vous êtes heureux? On n'a souvent pas pris le temps de repérer quels sont les symptômes physiologiques et psychiques qui nous permettent de savoir que cette chose-là, elle nous correspond profondément, qu'elle est alignée avec nous-mêmes et que du coup, c'est cette chose-là qui nous va à nous. Et peut-être qu'elle nous va à nous et qu'elle ne va pas du tout à notre voisin ou à notre voisine ou à quelqu'un d'autre. Et il n'y a que nous qui pouvons savoir à l'intérieur de nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, ce dont on a besoin, ce qui est juste pour nous et ce qui nous fait du bien.
C'est ça. Et c'est aussi ce dont on a besoin au quotidien, de savoir, de sentir que ben là, par exemple, j'ai besoin de me reposer et de me donner cette autorisation-là. Est-ce que je peux me donner l'autorisation de me reposer pendant 20 minutes, de faire en sorte à l'extérieur, de demander un coup de main à mon conjoint, de prendre en compte ce besoin-là, d'être vraiment sérieuse avec le fait de répondre à mes propres besoins. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel de la confiance en moi, parce que ça veut dire, encore une fois, que je peux compter sur moi-même. Je vais savoir répondre à mes besoins, je vais savoir prendre soin de moi, de la même façon qu'on dit à nos enfants qu'ils peuvent compter sur nous en tant que parents, parce qu'on va prendre soin d'eux, parce qu'on va faire attention à tout ce dont ils ont besoin, qu'on va anticiper ces besoins-là et qu'on va faire en sorte qu'ils aient toujours ce dont ils ont besoin. Et bien, est-ce que je peux faire la même chose avec moi-même, en fait?
Et un petit exercice pratique pour ça, il y a quelque chose que je pratique depuis un certain temps maintenant, c'est le fait de garder un cahier dans lequel, tous les soirs, on va garder une trace écrite précise de toutes les choses dont on est fier de soi-même et de toutes les choses qui nous correspondent. Parce qu'en fait, on les a dans notre tête, mais c'est pas forcément évident de les maintenir à la conscience et, comme on le disait, de les faire grandir. Et pour les faire grandir, il faut les répéter, il faut les ancrer, il faut les conscientiser. Et le fait de les écrire, ça leur donne un poids, ça leur donne une force de constat. En fait, je fais exister cette chose consciemment en l'écrivant et petit à petit, je repère tous les patterns positifs et toutes les choses qui me correspondent, qui sont les miennes, celles avec lesquelles moi je suis en phase, pour lesquelles je n'ai besoin d'approbation de personne. Et petit à petit, elles vont se renforcer.
Oui. Et puis, comme tu dis, faire grandir la fierté de moi-même. Et ça, c'est profondément en corrélation avec l'estime de soi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une des sources de la confiance en soi, c'est est-ce que je peux être fière de moi, fière de ce que j'ai fait aujourd'hui, même si c'est des toutes petites choses, même si elles n'étaient pas du tout visibles à l'extérieur, même s'il n'y a que moi qui sais qu'à ce moment-là, j'ai pris en compte ce petit besoin que j'avais, ou que j'ai fait cette petite chose pour quelqu'un, pour lui faire plaisir, ou quoi que ce soit, est-ce que je peux être fière de ça, moi? Et effectivement, le fait de le noter, d'en garder une trace, de prendre du temps pour se concentrer, pour pouvoir l'écrire, etc. C'est vraiment des choses qui construisent dans notre cerveau les patterns de pensée dont on a besoin pour construire la confiance en soi.
Vous allez voir, au début, c'est pas forcément évident, mais en fait, ça devient un exercice passionnant. Et c'est intéressant de le faire le soir avant de se coucher, parce que ça nous met dans un état d'esprit dans lequel on est consciemment en train de chercher ce dont on est fier. Donc ça nous met dans cette fréquence-là, en fait, ça nous met dans cette énergie-là de volontairement décider de regarder dans cette direction-là. Et si on s'endort sur, sur ces émotions-là, dans la nuit, elles se renforcent et on les cultive. Donc, moi, je vous invite vraiment à prendre un petit cahier, spécialement pour ça, et tous les soirs, à repérer 5 choses. 5 choses précises, spécifiques, pour lesquelles vous êtes fier de vous-même aujourd'hui. Vous allez voir, ça a un effet magique.
Alors, pourquoi c'est important de faire grandir l'amour de soi? Une raison qui est pas forcément évidente, mais très très importante, c'est que, en fait, si je ne sais pas du tout moi-même m'aimer ou me valoriser, je ne vais pas pouvoir croire en l'amour et la valorisation qui vient de l'extérieur. C'est contre-intuitif, parce qu'on croit que moins on croit en nous-mêmes et moins on s'aime soi-même, plus justement on a besoin que l'autre croit en nous et que l'autre nous dise qu'il nous aime. Et c'est tous les mécanismes dont on a parlé tout à l'heure, les comportements de recherche d'approbation, de recherche de reconnaissance, etc. Où on croit que parce que j'en manque à l'intérieur de moi, il faut que j'aille le chercher à l'extérieur. Mais en fait, il y a un mécanisme inconscient à l'intérieur de nous qui fait que si moi-même je n'y crois pas pour moi-même, je ne vais pas y croire quand ça viendra de l'extérieur. Je vais systématiquement l'invalider. Mon cerveau va systématiquement trouver des raisons de dire « oui, mais ». Mais si, eh oui. Mais ça, etc. Et c'est quelque chose qui, on en a parlé dans les tout premiers épisodes sur les conséquences néfastes du manque de confiance en soi dans les relations. C'est qu'en fait, la personne qui n'a pas confiance en elle du tout et qui n'arrive pas du tout à s'aimer, à la fois elle va chercher en permanence l'amour de l'autre et à la fois elle va passer son temps à l'invalider. Et en général, les personnes autour, elles s'épuisent et au bout d'un moment, elles disent « Ok, tu sais quoi? Tu crois vraiment que t'es cette personne qui n'est pas aimable et qui vaut rien? Je vais arrêter de lutter. Ok. » Et je m'en vais. Et c'est terrible parce que ça confirme les plus grandes peurs qu'on avait à l'intérieur de nous. Mais pourquoi? Parce que on n'arrive pas à suffisamment nous-mêmes nous aimer pour croire que effectivement quelqu'un d'autre pourrait nous aimer aussi.
Pour prendre une image, c'est un peu la même chose que quand on essaye d'arroser une terre qui est trop sèche. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça avec un arrosoir dans un pot. Quand la terre, elle est compacte et qu'elle est très dure et qu'elle est très très sèche, quand vous arrosez, l'eau, elle passe à travers, en fait. La terre n'est pas capable de retenir l'eau parce que, justement, elle est trop sèche. Alors que si elle est d'abord humidifiée et qu'elle est elle-même déjà un peu humide, alors s'il y a un arrosoir qui l'arrose, elle va être capable de retenir l'eau. Et bien là, par rapport à l'amour de nous-mêmes, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça commence forcément par le fait de faire grandir l'amour que l'on se porte à soi-même pour humidifier notre terrain.
C'est ça.
Pour qu'ensuite, l'amour qui va venir de l'extérieur puisse être retenu pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse le sentir et pour qu'on puisse le garder, pour qu'on puisse s'en nourrir. Sinon, ça va nous glisser dessus comme l'eau sur une terre trop aride.
C'est ça. Et puis, la deuxième raison de faire grandir l'amour de soi, c'est aussi que c'est une très, très bonne façon de montrer aux autres comment nous aimer, justement, et comment nous valoriser et comment nous respecter. On montre l'exemple, en fait. C'est la petite phrase, la fameuse petite phrase « Faites ce que je dis parce que je fais, déjà ça marche pas. » Mais alors, faites ce que je ne dis pas, que j'espère secrètement, que je n'arrive pas à faire avec moi-même, mais que s'il vous plaît, je désire ardemment que vous le fassiez. Évidemment, ça marche encore moins. Alors qu'à l'inverse, si moi-même je m'aime, si moi-même j'écoute mes besoins, si moi-même je respecte mes limites, si moi-même je prends en compte ce que je vis, ça va induire ça dans la relation à l'autre aussi, et ça va montrer le modèle de comment m'aimer. Encore une fois, l'être humain fonctionne comme beaucoup de primates et d'animaux en général, par mimétisme. Donc, si quelqu'un me voit, moi, me maltraiter, il y a des chances pour que, inconsciemment, ça lui donne l'autorisation de pas forcément respecter mes limites, voire potentiellement me maltraiter. Si à l'inverse, je suis tout à fait ancrée à l'intérieur de moi et que je me respecte, il y a beaucoup plus de chances que ça induise inconsciemment à l'intérieur de l'autre qu'il a intérêt à faire la même chose. C'est pas une garantie à 100%, on est d'accord, mais globalement, ça marche quand même vachement bien.
Alors, le deuxième point extrêmement important pour développer de la confiance en soi, et ça peut ne pas paraître évident au départ, c'est de développer de la douceur. D'être plus doux, d'être plus tendre, d'avoir de la grâce, d'avoir de la clémence envers soi-même. Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on a quand même souvent tendance à être des tyrans avec nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire que le discours que l'on se tient à l'intérieur de nous-mêmes, le jugement intérieur que l'on se porte, enfin, vous voyez ce petit diablotin qui est sur l'épaule droite et qui essaye de prendre le pouvoir par rapport au petit ange qui est sur l'épaule gauche mais qui a beaucoup plus de mal à parler, c'est impressionnant à quel point spontanément on va avoir des comportements envers nous-mêmes qui sont tyranniques, des choses que, enfin, on n'oserait pas se comporter comme ça avec son meilleur ami, en tout cas j'espère pas. Du coup, on peut imaginer ça comme ça, comment je me comporterais avec mon meilleur ami ou ma meilleure amie, comment je me comporterais avec une personne pour qui j'ai énormément d'amour et de respect, comment je lui parlerais, quel serait le ton de ma voix, comment je prendrais soin de cette personne, comment j'essaierais d'être doux, d'être gentil, d'être généreux. En fait, parce que si je ne réussis pas à me porter à moi-même de la douceur et de l'apaisement, on retombe sur le point avant, si moi je me maltraite à l'intérieur de moi-même, je ne peux pas faire grandir cette confiance et cet amour pour moi-même, parce que je suis en train de moi-même me faire mal. C'est pas forcément facile à arrêter comme pattern, parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais déjà, rien qu'en prendre conscience et savoir que c'est important d'avoir ce comportement-là envers nous-mêmes, ça peut changer beaucoup de choses. Et ça passe par quoi ? Ça passe par, déjà, accepter nos erreurs, accepter le fait qu'on n'est pas parfait, que des fois on fait des choses mal, et que même des fois ces choses, elles ont des conséquences. Et peut-être même que des fois ces conséquences, elles peuvent être graves. Oui, mais en fait, on est des êtres humains. Oui. Et un être humain, ça fait des erreurs. Et se juger et se martyriser sur des comportements qu'on a eus ou sur des événements qui se sont passés, en fait, ça ne nous fait pas du bien. Ça empile de la souffrance sur la souffrance, ça nous martyrise et ça ne nous permet pas d'en sortir. Donc, s'accepter tel que l'on est, se pardonner nos erreurs, ça ne veut pas dire se résigner. Ça veut dire les accueillir, faire avec et réussir à se dire à soi-même qu'en fait, c'est OK.
Oui, c'est vraiment le processus du pardon, pas de la résignation ou de se donner des excuses. Mais c'est vraiment ce beau mécanisme avec toute cette douceur et cette clémence de dire « Ok, il y a de l'humanité en toi, il y a de l'humanité en moi. Cette humanité, elle amène de l'imperfection et c'est ok. » Alors le petit exercice, qu'on voulait vous proposer par rapport à ça, ce serait de prendre un carnet, toujours pareil, et lister trois choses sur lesquelles vous estimez que vous avez besoin de vous pardonner ou que vous ne vous êtes pas pardonné encore dans votre histoire. Et pour chacune, vous allez les décrire très spécifiquement. Donc vraiment, les faits, les dates, les personnes impliquées, qu'est-ce qui s'est passé, les conséquences que ça a eu à court terme, à moyen terme, à long terme. Vraiment le plus spécifique possible. Je dirais minimum 10 lignes par fait à se pardonner. Vraiment pour rentrer dans le détail de cette chose-là et arrêter d'en faire quelque chose de à la fois vague et gigantesque à l'intérieur de moi, mais vraiment décrire spécifiquement, ok, c'est quoi la scène, c'est quoi la situation, les personnes, etc., etc. Deuxième, essayer d'explorer pourquoi j'ai fait ça ou dit ça ou pas fait ça ou pas dit ça, etc. Pourquoi, c'est-à-dire quelles sont les émotions que je ressentais? Qu'est-ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là pour que ça aboutisse à ce résultat-là? L'idée, c'est que c'est pas pour se donner des excuses, mais encore une fois pour remettre de l'humanité. En fait, il y a toujours une histoire et un contexte derrière ce que l'on fait. Il y a toujours une manière de comprendre nos comportements et ce qui y a amené là. Et comprendre, ça veut pas dire, encore une fois, passer l'éponge ou dire c'est pas grave ou au contraire se flageller. C'est juste voir qu'il y a une histoire qui a amené à cet endroit-là et que cette histoire, elle fait du sens. On peut voir comment les choses se sont enchaînées pour qu'on en arrive là. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est accueillir ce que tu disais. C'est-à-dire se donner le droit à l'erreur, se dire c'est ok. C'est ok, je me suis trompée et je me donne le droit de me tromper. J'ai fait une erreur et je me donne le droit de faire des erreurs. Parce que je suis humain, parce que ça fait forcément partie du chemin et parce que le sujet c'est maintenant comment je vais avancer avec ça. C'est pas comment je vais faire pour effacer mon passé et faire en sorte de ne plus jamais faire d'erreur dans mon futur parce que ça, c'est pas réaliste. Donc c'est vraiment arrêter de souhaiter d'être quelqu'un de parfait ou arrêter de souhaiter d'être quelqu'un de différent. Lâcher l'idéal du parcours sans erreur et accepter que l'on est qui l'on est à l'endroit où on est. Et puis la quatrième et dernière étape par rapport à ces choses qu'on a à se pardonner, c'est de prendre la responsabilité des conséquences qu'il y a eu, mais prendre cette responsabilité à partir d'aujourd'hui. Dans le sens où, encore une fois, le passé, c'est le passé, on ne le changera pas. On ne pourra rien faire pour changer l'histoire. Donc ça, c'est la partie à accueillir et où se dire, c'est ok, pour pouvoir lâcher. Par contre, prendre ma responsabilité à partir d'aujourd'hui en me disant, ok, est-ce que par rapport à ça, il y a quelque chose que aujourd'hui j'ai besoin de faire, que aujourd'hui j'ai besoin de dire? Est-ce que il faut que je rétablisse certaines choses ou au contraire que je mette fin à d'autres choses? Et ça, ça fait référence à la dixième cause qu'on a nommée dans les épisodes précédents, qui est que quand je ne prends jamais aucune part de responsabilité, en fait, je ne me donne jamais non plus la sensation d'avoir du pouvoir sur la situation et de pouvoir faire évoluer les choses dans un sens qui est favorable, en accord avec mes valeurs, en accord avec qui j'ai envie d'être et qui peut me rendre fière de moi. Prendre cette part de responsabilité à partir d'aujourd'hui, pas m'écraser de culpabilité pour le passé, accepter que c'est comme ça, que ça fait partie de mon chemin, mais voir comment aujourd'hui je peux faire en sorte que les choses soient plus justes et plus saines pour la suite, c'est me redonner accès à ce pouvoir et du coup à de la confiance en moi. Donc vraiment, tout cet exercice de se pardonner, c'est à la fois enlever le conflit et la violence qu'il y a à l'intérieur de moi par rapport à ces situations sur lesquelles je me juge, mais aussi construire un sentiment de pouvoir et de liberté pour la suite.
Oui, c'est très juste ce que tu dis. En fait, se pardonner, c'est une manière de construire la confiance en soi. Parce que c'est un processus qui demande beaucoup de force, beaucoup de courage.
Oui.
Souvent, on pourrait imaginer que accepter, c'est se résigner, et que du coup, c'est de la lâcheté et tout ça. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vraiment,
c'est très difficile.
Cheminer, arpenter le processus que tu viens de décrire avec ces quatre étapes pour se pardonner, ça nécessite beaucoup de courage, ça nécessite beaucoup d'honnêteté, ça nécessite de la résilience, ça nécessite de la persévérance parce que c'est pas facile. Et ça nécessite, dans l'honnêteté, de regarder en face ce qui s'est passé et de prendre la décision de continuer à avancer. C'est-à-dire de prendre la décision de ne pas rester bloqué là où je suis. Et ça, c'est extrêmement puissant dans la construction de la confiance en soi parce que ça nous permet de nous dire que plus rien n'a la capacité de me clouer au sol et de me maintenir à terre. Ça me dit que quel que soit ce qui se passe, j'ai la capacité de me relever. J'ai la capacité de me relever de tout, en fait. Il n'y a plus rien qui me bloque, il n'y a plus rien qui m'empêche, il n'y a plus rien qui a la possibilité de me détruire à ce point-là. Alors que, par contre, un événement ou quelque chose que l'on ne se pardonne pas et qui tourne en boucle dans notre tête, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point c'est une perte d'énergie, c'est incroyable. Ça nous bloque complètement, ça nous empêche d'avancer.
Oui.
C'est horrible. Donc là, vraiment, ce processus du pardon et ensuite, comme tu le disais, d'assumer la responsabilité des conséquences à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai coutume de dire que assumer la responsabilité, c'est la clé de la liberté. C'est-à-dire qu'au moment où on peut reprendre une part de responsabilité dans la scène et en assumer les conséquences, tout à coup, on fait naître à l'intérieur de nous la certitude selon laquelle on arrête d'être une victime dans cette chose et on a le pouvoir d'en faire quelque chose. Mmh. On a le pouvoir d'avancer. Mmh. Et ça, c'est pas forcément facile à avoir au départ, mais ça crée une dynamique à l'intérieur de nous qui est incroyablement puissante et qui génère en plus de ça de la fierté.
Oui.
Donc ça a plusieurs effets qui sont très positifs parce que ça construit de la confiance en nous et aussi de l'estime de nous. C'est-à-dire que ça nous permet de nous dire à nous-mêmes, en fait, je suis une belle personne. Je suis une personne qui a de la valeur parce que je ne fuis pas ce qui est en train de se passer et parce que je reprends ma place dans cette scène et je suis capable de réparer, je suis capable d'en assumer la responsabilité.
Oui, j'ai ce courage-là, j'ai cette capacité, j'ai cette force, je peux le faire. Et si ça, c'est pas la définition de la confiance en soi.
Alors le troisième point, le troisième axe de travail qu'on vous propose, c'est un exercice que j'adore faire, c'est emprunter les yeux de quelqu'un d'autre. Alors non, il n'y a rien de barbare à cette expérience, croyez-moi. Mais c'est quelque chose de magique là aussi. C'est, en fait, vous allez choisir une ou deux personnes qui vous connaissent bien. Des gens qui sont proches de vous, des gens qui vous connaissent bien, des gens en qui vous avez confiance et des gens en qui vous allez décider volontairement de faire confiance en leur manière de vous voir. C'est-à-dire que vous allez décider d'adopter la manière que ces gens-là ont de vous voir.
Bien sûr, il faut que ce soit des personnes bienveillantes, hein, on est d'accord.
On est bien sûr d'accord là-dessus.
Ça va avec.
On va choisir correctement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous empêcher à vous-même de relativiser, de vous dire « Ah non, mais c'est pas vrai, elle dit ça, c'est « Oh, mais non, mais elle est gentille parce qu'elle m'aime bien. » Non, non. Vous allez vous empêcher de relativiser. Vous allez vous empêcher d'invalider ou de contextualiser leur manière de vous voir et ce qu'elles pensent, elles disent de vous. Vous allez emprunter leur vision, sans donner à votre cerveau le droit de le remettre en question. Alors au début, ça va vous paraître très très bizarre, parce que bien sûr, votre cerveau, lui, il est habitué à croire, il est surentraîné à vous dénigrer. Donc du coup, si quelqu'un pense beaucoup de bien de vous, et que soudainement, vous vous mettez à adopter cette manière de vous voir, qui n'est du coup pas la vôtre, votre cerveau, au départ, il va dire « Non, attends, ouais, n'importe quoi là, ton histoire. » Mais à ce moment-là, il faudra vous souvenir de la décision que vous avez prise de faire confiance à leur regard. Et croyez-moi, ça marche.
C'est ça, parce que ça permet un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'utiliser l'amour ou l'affection ou la bienveillance ou juste le positif que les autres pensent de nous, de l'utiliser pour arroser un peu notre terre intérieure, pour ensuite pouvoir accueillir l'amour qui pourrait venir dans une relation autre, etc. Parce que ben parfois, c'est difficile de la faire naître a cappella à l'intérieur de nous, alors qu'on a souvent au moins une personne autour de nous qui, en fait, pense du bien de nous. Et se dire, OK, ben, si moi, j'arrive pas à le croire, je vais miser sur elle. Je vais miser sur ce qu'elle, elle voit. Je vais lui faire confiance aussi, en me disant que non, si elle pense ça, c'est qu'elle a probablement raison. Elle n'est pas bête, elle n'est pas aveugle, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Et je vais essayer d'emprunter sa façon de voir. Et ça, ça a une puissance, même à un niveau purement biologique, qui peut se comprendre très bien. C'est que, on parlait dans l'épisode précédent des sillons neuronaux, c'est-à-dire ces chemins de pensée, de croyance qu'on emprunte pendant des années, des années, des années, et qui font qu'on va avoir tendance à les réemprunter très facilement. En fait, ça correspond concrètement à comment fonctionnent les neurones. C'est-à-dire que dans notre cerveau, toute pensée, tout mouvement, toute interprétation d'une information quelconque, peu importe quelle information, c'est des chemins de neurones, des enchaînements de neurones qui communiquent entre eux. Et en fait, un chemin neuronal, plus il va être utilisé, et plus il va devenir puissant, rapide et automatique. À l'inverse, un chemin qui n'est pas utilisé, il va petit à petit disparaître ou devenir très lent et très difficile. C'est ça qui fait notamment les processus d'apprentissage, c'est-à-dire que quand on commence à apprendre quelque chose et qu'on le fait pour la première fois, c'est compliqué, on est un peu maladroit, ça nous prend énormément de temps, ça nous prend énormément d'attention, etc., etc. Au bout d'un moment, ça devient presque automatique, presque un réflexe, parce qu'en fait, on a tellement bien renforcé ce chemin neuronal-là que du coup, il est devenu hyper performant. Et bien là, c'est la même chose, c'est se dire que si j'ai surentraîné mes chemins neuronaux à penser négativement de moi, c'est ceux-là qui automatiquement se mettent en œuvre, et c'est pour ça que automatiquement j'ai des pensées négatives. Mais le sujet devient alors de entraîner mes chemins neuronaux de pensées positives sur moi-même, même si au début c'est long, même si c'est compliqué, même si c'est maladroit, même si j'y crois pas trop, même si c'est difficile, etc. Mais pour qu'il puisse un jour devenir aussi puissant, voire même plus puissant que les négatifs, et aussi automatique. Et ça, c'est vraiment important de garder en nous le fait que le cerveau est d'une plasticité incroyable, et ce jusqu'à la fin de notre vie. Alors oui, bien sûr, un enfant de 2 ans n'apprend pas à la même vitesse qu'une personne de 80 ans. On est tous d'accord. Mais la personne à 80 ans, elle continue d'entretenir des chemins neuronaux, elle continue d'en créer, elle continue d'en laisser certains de côté. Donc jusqu'au bout du bout du bout, le cerveau est capable de s'adapter, est capable de créer, de renforcer, de laisser tomber, etc. etc. Et ça, c'est notre choix, c'est notre liberté quelque part. Donc on est en perpétuelle évolution, et du coup le sujet, ça devient de l'entraîner, notre cerveau, tout simplement. Alors, à nouveau, cet épisode était un peu long, donc on a décidé de le couper en 2 parties. Donc vous aurez dans la prochaine partie la suite des pistes qu'on vous propose pour construire de la confiance en soi. Pour nous tous, les conflits sont une plaie, ce que nous essayons d'éviter. Parfois, au prix de ne plus être capable de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de poser des limites saines et de demander ce dont nous avons besoin. Et la relation petit à petit perd son sens. Dans d'autres situations, les conflits deviennent tellement récurrents et douloureux qu'on en devient usé, fatigué, et que la seule solution semble alors être de mettre fin à la relation. Et si ce n'était pas la seule solution? Et si on pouvait désarmer nos conflits au moment même où ils pointent le bout de leur nez pour éviter l'escalade de violence et de mots blessants? Et si on n'avait pas à en avoir peur, mais au contraire, qu'on pouvait plonger avec confiance dans nos vulnérabilités pour découvrir qui nous sommes? C'est le pari un peu fou que nous vous proposons. Ça vous dit plus de confiance en vous et de paix dans votre quotidien avec cette ou ces personnes qui comptent tant? Allez sur la page internet www.jevaismieux.fr/3C et découvrez gratuitement la méthode des 3C qui va changer votre vie. Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez. Aujourd'hui.
Nous sommes Aimé et Adrien. Et ici, c'est Je vais mieux.